Nicolas, vous avez lancé récemment une étude que vous avez publiée. Comment cette étude vous est venue ?
En écoutant Thierry Breton, parce qu'il y a une prise de conscience de l'enjeu développement des télécoms. Les télécoms européens sont à la peine par rapport aux télécoms nord-asiatiques, nord-américains ou asiatiques. L'Union européenne cherche à accélérer leur développement. En écoutant ce qu'il dit et ce qu'il dit pas.
Dans votre étude, vous soulignez que le secteur s'est transformé, mais que la rentabilité n'est toujours pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? On gère mal dans les télécoms ?
Non, vous avez une couche de fiscalité anormale. Vous avez des impôts de production qui sont des impôts prélevés sur, qui passent par l'opérateur, qui obèrent votre rentabilité. Vous avez 3,1% du chiffre d'affaires en impôts de production en France, contre 1,4% pour les secteurs standards. Et donc vous avez deux fois plus de fiscalité. Et vous avez le même effet sur l'impôt sur les sociétés. Vous avez plus d'impôts sur les sociétés. Vous avez 8 points de plus d'impôts sur les sociétés sur les 20 dernières années, parce que vous avez moins de recherche et développement que les autres secteurs.
C'est ce que d'ailleurs dit l'étude, hein. C'est une forte dégradation de la création de richesses. Et puis finalement, ce sont des facteurs externes, c'est ce que vous confirmez.
Oui, ce sont des facteurs externes. Vous avez une surfiscalité, ça obère votre rentabilité, ça obère votre capacité de développement.
Et est-ce que c'est une fiscalité locale ? Est-ce que c'est pareil dans tous les autres pays ?
C'est plus développé en France. C'est une fiscalité locale, c'est une fiscalité qui bénéficie aux collectivités locales. Et le conseil standard des économistes, ça serait de supprimer cette fiscalité et de financer les collectivités locales par un partage de la TVA. Le partage de la TVA, c'est des choses qui se font en Allemagne, qui se font en Espagne, et qui permettent de financer les collectivités par des impôts non distortifs qui ne pénalisent pas des secteurs économiques spécifiques.
Alors que peut faire la Commission européenne là, pour aider le secteur des télécoms et essayer de retrouver une voie positive de création de richesses ?
Il y a cet aspect, hein, elle peut encourager la disparition des spécificités fiscales. Elle peut aussi réfléchir sur son droit à la concurrence, parce que la Commission européenne est très active en termes de concurrence. Elle a un logiciel assez daté en termes de concurrence. Elle fait en sorte qu'il y ait toujours au minimum 3 voire 4 opérateurs par pays. Elle empêche les fusions. Et en empêchant les fusions, vous empêchez le secteur de se consolider. Vous empêchez l'émergence de grands leaders européens. Et finalement, vous renforcez la dépendance par rapport à l'Amérique du Nord ou par rapport à l'Asie. En Amérique du Nord, les opérateurs sont en moyenne 10 fois plus grands que dans l'Union européenne. Et ça, c'est directement lié à l'application du droit de la concurrence européen.
Très bien. Et en l'occurrence, si on dézoome encore un petit peu plus, vous notez aussi dans l'étude qu'il y a un sous-développement de l'épargne longue. Finalement, cette épargne longue dont fait partie l'actionnariat salarié aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, globalement, en Europe, on est à la traîne. Il nous manque 10 400 milliards de capitalisation boursière. Et ce manque de capitalisation boursière, qui est pallié dans certains domaines par l'actionnariat salarié ou par d'autres dispositifs à l'étranger, il est prégnant. Et il explique notre retard dans toutes les techniques du 21e siècle. On se demande comment on va financer, par exemple, la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose de clé. Sans capitalisation, sans capitaux longs, on aura du mal à financer la transition énergétique. Toute la transition des premières révolutions industrielles, on l'avait financée au 19e siècle par de l'épargne longue. Et cette épargne longue, on l'a plus. On l'a plus notamment parce qu'on a peu de fonds de pension en Europe continentale. En France, l'épargne retraite, c'est 12% du PIB. En Allemagne, c'est 8% du PIB. En Italie, c'est des chiffres du même ordre. Dans le monde entier, l'épargne retraite, c'est en moyenne 105% du PIB. Il nous manque un PIB d'épargne longue qui finance l'innovation, qui finance les enjeux de demain.
Et d'ailleurs, ça se voit dans le cours de bourse.
Clairement, il y a une corrélation directe entre la taille de l'épargne retraite dans les différents pays et la taille des capitalisations boursières. Et nous, en Europe, dans l'Union européenne, on a à la fois peu d'épargne retraite, peu de capitalisation boursière, et donc une difficulté à financer nos entreprises autrement que par l'autofinancement ou par l'emprunt. C'est une fragilité.
Bien sûr. Et donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de récupérer une partie de cette épargne à travers l'actionnariat salarié. Alors, les actionnaires salariés sont des investisseurs comme les autres. On espère qu'en agissant sur ces leviers, les actionnaires salariés pourront retrouver aussi un bénéfice dans les années à venir. Merci Nicolas Marquès pour ces éléments et cette étude. Et puis vous retrouverez un peu plus de détails avec l'interview avec Olivier de Zetave et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Merci à vous Nicolas, à bientôt.